Ananke. Il advient que par une belle matinée de ce même mois de mars, je crois que c'était le 29, jour de Saint-Eustache, notre jeune ami l'écolier géant Frollo du Moulin s'aperçut en s'habillant que ses grègues, qui contenaient sa bourse, ne rendaient aucun son métallique. « Pauvre bourse, dit-il en tirant de son gousset. Quoi, pas le moindre petit parisis ?» Comme les dés et les pots de bière et Vénus t'ont cruellement éventré. Comme te voilà vide, ridé et flasque. Tu ressembles à la gorge d'une furie. Je vous le demande, messer Cicéro et messer Sénéca, dont je vois les exemplaires tout racornis et pars sur le carreau, que me sert de savoir mieux qu'un général des monnaies ou qu'un juif du pont au changeur, qu'un écu d'or à la couronne vaut 35 usins de 25 sous, 8 deniers parisis chaque, et qu'un écu au croissant vaut 36 usins de 26 sous et 6 deniers tournois pièces, si je n'ai pas un misérable liard noir à risquer sur le double 6. Ah, consul Cicéro, ce n'est pas là une calamité dont on se tire avec des périphrases. Il s'habilla tristement. Une pensée lui était venue tout en ficelant ses bottines, mais il la repoussa d'abord. Cependant, elle revint, et il mit son gilet à l'envers, signe évident d'un violent combat intérieur. Enfin, il jeta rudement son bonnet à terre et s'écria « Tant pis ! Il en sera ce qu'il pourra. Je vais aller chez mon frère. J'attraperai un sermon, mais j'attraperai un écu. » Alors, il endossa précipitamment sa casate à mahoître, fourrée, ramassa son bonnet et sortit, en désespéré. Il descendit la rue de la Harpe vers la cité. En passant devant la rue de la Huchette, l'odeur de ces admirables broches qui y tournaient incessamment vint chatouiller son appareil olfactif et il donna un regard d'amour à la cyclopéenne rôtisserie qui arracha un jour au cordelier Calatatirone cette pathétique exclamation « Veramente queste rôtisserie sona cosa stupenda ». Mes géants n'avaient pas de quoi déjeuner, et il s'enfonça avec un profond soupir sous la porte du Petit Châtelet, cet énorme double trèfle de tours massives qui gardait l'entrée de la cité. Il ne prit pas même le temps de jeter une pierre en passant, comme c'était l'usage, à la misérable statue de Périnée Leclerc qui avait livré le Paris de Charles VI aux Anglais, crime que son effigie, la face écrasée de pierre et souillée de boue, a expié pendant 3 siècles au coin des rues de la Harpe et de Bussy comme à un pilori éternel. Le petit pont traversé, la rue Neuve Sainte-Geneviève enjambée, géant de Molendino se trouva devant Notre-Dame. Alors son indécision le reprit et il se promena quelques instants autour de la statue de M. Legris en se répétant avec angoisse « Le sermon est sûr, l'écu est douteux. » Il arrêta un bedeau qui sortait du cloître. « Où est M. l'archidiacre de Josas ?»« Je crois qu'il est dans sa cachette de la tour, dit le bedeau. » Et je ne vous conseille pas de l'y déranger, à moins que vous ne veniez de la part de quelqu'un comme le pape ou monsieur le roi. » Géant frappa dans ses mains. « Bé diable ! Voilà une magnifique occasion de voir la fameuse logette aux sorcelleries. » Déterminé par cette réflexion, il s'enfonça résolument sous la petite porte noire et se mit à monter la vie de Saint-Gilles, qui menait aux étages supérieurs de la tour. « Je vais voir, se disait-il chemin faisant, par les corbignoles de la Sainte Vierge. » Ce doit être chose curieuse que cette cellule que mon révérend frère cache comme son pudendum. On dit qu'il y allume des cuisines d'enfer et qu'il y fait cuire à gros feu la pierre philosophale. Bédiou ! Je me soucie de la pierre philosophale comme d'un caillou, et j'aimerais mieux trouver sur son fourneau une omelette d'œuf de Pâques au lard que la plus grosse pierre philosophale du monde. Parvenu sur la galerie des colonnettes, il souffla un moment. Et jura contre l'interminable escalier par je ne sais combien de millions de charretées de diable. Puis, il reprit son ascension par l'étroite porte de la tour septentrionale, aujourd'hui interdite au public. Quelques moments après avoir dépassé la cage des cloches, il rencontra un petit palier pratiqué dans un renfoncement latéral et sous la voûte une basse porte ogive dont une meurtrière percée en face dans la paroi circulaire de l'escalier lui permit d'observer l'énorme serrure et la puissante armure de fer. Les personnes qui seraient curieuses aujourd'hui de visiter cette porte la reconnaîtraient à cette inscription gravée en lettres blanches dans le muraille noir. « J'adore Coralie, 1823, signé Eugène ». signé est dans le texte. « Ouf !» dit l'écolier, « c'est sans doute ici. » La clé était dans la serrure. La porte était toute contre. Il la poussa mollement et passa la tête par l'entr'ouverture. Le lecteur n'est pas sans avoir feuilleté l'œuvre admirable de Rembrandt, ce Shakespeare de la peinture. Parmi tant de merveilleuses gravures, il y a en particulier une eau-forte qui représente, à ce qu'on suppose, le docteur Faust, et qu'il est impossible de contempler sans éblouissement. C'est une sombre cellule. Au milieu est une table chargée d'objets hideux, têtes de mort, sphères, alambics, compas, parchemins, hiéroglyphiques. Le docteur est devant cette table, vêtu de sa grosse houppelande et coiffé jusqu'aux sourcils de son bonnet fourré. On ne le voit qu'à mi-corps. Il est à demi levé de son immense fauteuil. Ses poings crispés s'appuient sur la table et il considère avec curiosité et terreur un grand cercle lumineux formé de lettres magiques qui brillent sur le mur du fond comme le spectre solaire dans la chambre noire. Ce soleil cabalistique semble trembler à l'œil et remplit la blafarde cellule de son rayonnement mystérieux. C'est horrible et c'est beau. Quelque chose d'assez semblable à la cellule de Faust souffrit à la vue de Jehan quand il eut hasardé sa tête par la porte entrebâillée. C'était de même un réduit sombre et à peine éclairé. Il y avait aussi un grand fauteuil et une grande table, des compas, des alambics, des squelettes d'animaux pendus au plafond, une sphère roulant sur le pavé, des hippocéphales pêle-mêle avec des bocaux où tremblaient des feuilles d'or, des têtes de mort posées sur des vélins bigarrés de figures et de caractères, de gros manuscrits empilés tout ouverts, sans pitié pour les angles cassants du parchemin. Enfin, toutes les ordures de la science et partout sur ce fouillis de la poussière et des toiles d'araignée. Mais il n'y avait point de cercle de lettres lumineuses, point de docteur en extase, contemplant la flamboyante vision comme l'aigle regarde son soleil. Pourtant, la cellule n'était point déserte. Un homme était assis dans le fauteuil et courbé sur la table. Jehan, auquel il tournait le dos, ne pouvait voir que ses épaules et le derrière de son crâne, mais il n'eut pas de peine à reconnaître cette tête chauve à laquelle la nature avait fait une tonsure éternelle, comme si elle avait voulu marquer par ce symbole extérieur l'irrésistible vocation cléricale de l'archidiacre. Jehan reconnut donc son frère. Mais la porte s'était ouverte si doucement que rien n'avait averti Don Claude de sa présence. Le curieux écolier en profita pour examiner quelques instants à loisir la cellule. Un large fourneau qu'il n'avait pas remarqué au premier abord était à gauche du fauteuil, au-dessous de la lucarne. Le rayon du jour qui pénétrait par cette ouverture traversait une ronde toile d'araignée qui inscrivait avec goût sa rosace délicate dans l'ogive de la lucarne et au centre de laquelle l'insecte architecte se tenait immobile comme le moyeu de cette roue de dentelle. Sur le fourneau étaient accumulés en désordre toutes sortes de vases, des fioles de grès, des cornues de verre, des matrasses de charbon. Jehan observa en soupirant qu'il n'y avait pas eu un poêlon. « Elle est fraîche, la batterie de cuisine, » pensa-t-il. Du reste, il n'y avait pas de feu dans le fourneau et il paraissait même qu'on n'en avait pas allumé depuis longtemps. Un masque de verre que Jehan remarqua parmi les ustensiles d'alchimie et qui servait sans doute à préserver le visage de l'archidiacre lorsqu'il élaborait quelque substance redoutable, était dans un coin, couvert de poussière et comme oublié. À côté, gisait un soufflet, non moins poudreux et dont la feuille supérieure portait cette légende incrustée en lettres de cuivre, « Spira spera ». D'autres légendes étaient écrites, selon la mode des hermétiques, en grand nombre sur les murs. Les unes tracées à l'encre, les autres gravées avec une pointe de métal. Du reste, lettres gothiques, lettres hébraïques, lettres grecques et lettres romaines pêle-mêle. Les inscriptions débordant au hasard, celles-ci sur celles-là, les plus fraîches effaçant les plus anciennes, et tous enchevêtrant les unes dans les autres comme les branches d'une broussaille, comme les pics d'une mêlée. C'était en effet une assez confuse mêlée de toutes les philosophies, de toutes les rêveries, de toutes les sagesses humaines. Il y en avait une, çà et là, qui brillait sur les autres comme un drapeau parmi les fers de lance. C'était la plupart du temps une brève devise latine ou grecque comme les formulait si bien le Moyen-Âge, unde, inde, homo, homino, monstrum, astra, castra, nomen, numen, etc. Quelquefois un mot dénué de tout sens apparent, ce qui cachait peut-être une allusion amère au régime du cloître. Quelquefois encore un simple maxime de disciple cléricale formulé en un hexamètre réglementaire. Il y avait aussi passim, des grimoires hébraïques auxquels Jehan, déjà fort peu grec, ne comprenait rien, et le tout était traversé à tout propos par des étoiles, des figures d'hommes ou d'animaux et des triangles qui s'intersectaient, ce qui ne contribuait pas peu à faire ressembler la muraille barbouillée de la cellule à une feuille de papier sur laquelle un singe aurait promené une plume chargée d'encre. L'ensemble de la logette, du reste, présentait un aspect général d'abandon et de délabrement, et le mauvais état des ustensiles laissait supposer que le maître était déjà depuis assez longtemps distrait de ses travaux par d'autres préoccupations. Ce maître, cependant, penché sur un vaste manuscrit orné de peintures bizarres, paraissait tourmenté par une idée qui venait sans cesse se mêler à ses méditations. C'est du moins ce que Jehan jugea en l'entendant s'écrier, avec les intermittences pensives d'un songe creux que rêve tout haut. « Oui, Manou, le dit Zoroastre, l'enseigné, le soleil né du feu, la lune du soleil, le feu est l'âme grand tout. » Ces atomes élémentaires s'épanchent et ruissellent incessamment sur le monde par courants infinis. Au point où ces courants s'entrecoupent dans le ciel, ils produisent la lumière. À leur point d'intersection dans la terre, ils produisent l'or. La lumière, l'or, même chose. Du feu à l'état concret. La différence du visible au palpable, du fluide au solide pour la même substance, de la vapeur d'eau à la glace, rien de plus. Ce ne sont point là des rêves, c'est la loi générale de la nature. Mais comment faire pour soutirer dans la science le secret de cette loi générale? Quoi? Cette lumière qui inonde ma main, c'est de l'or? Ces mêmes atomes dilatés selon une certaine loi? Il ne s'agit que de les condenser selon une certaine autre loi. Comment faire? Quelques-uns ont imaginé d'enfouir un rayon du soleil. Averroès. Oui, c'est Averroès. Averroès en a enterré un sous le premier pilier de gauche du sanctuaire du Coran dans la grande mahomerie de Cordoue. Mais on ne pourra l'ouvrir le caveau pour voir si l'opération a réussi que dans 8000 ans. Diable, dit Jehan à part lui. Voilà qui est longtemps à tendre un écu. D'autres ont pensé, continua l'archidiacre rêveur, qu'il valait mieux opérer sur un rayon de Sirius. Mais il est bien malaisé d'avoir ce rayon pur à cause de la présence simultanée des autres étoiles qui viennent s'y mêler. Flamel estime qu'il est plus simple d'opérer sur le feu terrestre. Flamel, quel nom de prédestiné. Flamme, oui, le feu, voilà tout. Le diamant est dans le charbon, l'or est dans le feu. Mais comment l'en tirer? Magistri affirme qu'il y a de certains noms de femmes d'un charme si doux et si mystérieux qu'il suffit de les prononcer pendant l'opération. Lisons ce qu'en dit Manon. Où les femmes sont honorées, les divinités sont réjouies. Où elles sont méprisées, il est inutile de prier Dieu. La bouche d'une femme est constamment pure. C'est une eau courante, c'est un rayon de soleil. Le nom d'une femme doit être agréable, doux, imaginaire. Finir par des voyelles longues et ressembler à des mots de bénédiction. Oui, le sage a raison, en effet. La Maria, la Sophia, la Esmera... Damnation, toujours cette pensée. Et il ferma le livre avec violence. Il passa la main sur son front comme pour chasser l'idée qui l'obsédait. Puis il prit sur la table un clou et un petit marteau dont le manche était curieusement peint de lettres kabbalistiques. Depuis quelque temps, dit-il avec un sourire amer, j'échoue dans toutes mes expériences. L'idée fixe me possède et me flétrit le cerveau comme un trèfle de feu. Je n'ai seulement pu retrouver le secret de Cassiodore, dont la lampe brûlait sans mèche et sans huile. Chose simple pourtant. Peste, dit Jehan dans sa barbe. Il suffit donc, continua le prêtre, d'une seule misérable pensée pour rendre un homme faible et fou. Oh, que Claude Pernelle riait de moi, elle qui n'a pu détourner un moment Nicolas Flamel de la poursuite du grand œuvre. Quoi ? Je tiens dans ma main le marteau magique de Deschiélé. À chaque coup que le redoutable rabbin du fond de sa cellule frappait sur ce clou avec ce marteau, celui de ses ennemis qu'il avait condamné eût-il été à 2000 lieues s'enfoncer d'une coudée dans la terre qui le dévorait. Le roi de France lui-même, pour avoir un soir heurté inconsidérément à la porte du thaumaturge, entra dans son pavé de Paris jusqu'au genou. Ceci s'est passé il y a 3 siècles. Eh bien, j'ai le marteau et le clou, et ce ne sont pas outils plus formidables dans mes mains qu'un hutin aux mains d'un tailladier. Pourtant, il ne s'agit pas de retrouver le mot magique que prononçait Zéchelé en frappant sur son clou. Bagatelle, pensa Jehan. Voyons, essayons, reprit vivement l'archidiacre. Si je réussis, je verrai l'étincelle bleue jaillir de la tête du clou. Émène-étant. Ce n'est pas cela. Si Gianni. Que ce clou ouvre la tombe à quiconque porte le nom de Phébus. Malédiction, toujours, encore, éternellement la même idée. Et il jeta le marteau avec colère. Puis il s'affaissa tellement sur le fauteuil et sur la table que Jehan le perdit de vue derrière l'énorme dossier. Pendant quelques minutes, il ne vit plus que son poing convulsif crispé sur un livre. Tout à coup, Don Claude se leva, prit un compas et grava en silence sur la muraille en lettres capitales ce mot grec. Ananke. Mon frère est fou, dit Jehan lui-même. Et puis c'était bien plus simple d'écrire Fatum. Tout le monde n'est pas obligé de savoir le grec. L'archidiacre vint se rasseoir dans son fauteuil et posa sa tête sur ses deux mains, comme fait un malade dont le front est lourd et brûlant. L'écolier observait son frère avec surprise. Il ne savait pas, lui qui mettait son cœur en plein air, lui qui n'observait de loi au monde que la bonne loi de nature, lui qui laissait s'écouler ses passions par ses penchants et chez qui le lac des grandes émotions était toujours à sec, tant il pratiquait largement chaque matin de nouvelles rigoles, il ne savait pas avec quelle furie cette mer des passions humaines fermente et bouillonne lorsqu'on lui refuse toute issue, comme elle s'amasse, comme elle s'enfle, comme elle déborde, comme elle creuse le cœur, comme elle éclate en sanglots intérieurs et en sourdes convulsions jusqu'à ce qu'elle ait déchiré ses digues et creusé son lit. L'enveloppe austère et glaciale de Claude Frollo, cette froide surface de vertu escarpée et inaccessible, avait toujours trompé Jehan. Le joyeux écolier n'avait jamais songé à ce qu'il y a de lave bouillante, furieuse et profonde sous le front de neige de l'Etna. Nous ne savons pas s'il se rendit compte subitement de ses idées, mais tout évaporé qu'il était, il comprit qu'il avait vu ce qu'il n'aurait pas dû voir, qu'il venait de surprendre l'âme de son frère aîné dans une de ses plus secrètes attitudes et qu'il ne fallait pas que Claude s'en aperçût. Voyant que l'archidiacre était retombé dans son immobilité première, il retira sa tête très doucement et fit quelques bruits de pas derrière la porte comme quelqu'un qui arrive et qui avertit de son arrivée. « Entrez !» cria l'archidiacre de l'intérieur de la cellule. « Je vous attendais. J'ai laissé exprès la clé à la porte. Entrez, maître Jacques !» L'écolier entra hardiment. L'archidiacre, qu'une pareille visite gênait fort en pareil lieu, tressaillit sur son fauteuil. « Quoi ? C'est vous, Jehan ?»«
C'est toujours un J, » dit l'écolier avec sa face rouge, effrontée et joyeuse.
Le visage de Don Claude avait repris son expression sévère. « Que venez-vous faire ici ?» « Mon frère, » répondit l'écolier en s'efforçant d'atteindre à une mine décente, piteuse et modeste, et en tournant son bicoquet dans ses mains avec un air d'innocence, « je venais vous demander...
quoi ?»«
Un peu de morale dont j'ai grand besoin. » Jehan osa ajouter tout haut, « et un peu d'argent dont j'ai plus grand besoin encore. » Ce dernier membre de sa phrase resta inédit. « Monsieur, dit l'archidiacre d'un ton froid, je suis très mécontent de vous. »«
Hélas, soupira l'écolier. »
Don Claude fit décrire un quart de cercle à son fauteuil et regarda Jehan fixement. « Je suis bien aise de vous voir. » C'était un exorde redoutable. Jehan se prépara à un rude choc. « Jehan, on m'apporte tous les jours des doléances de vous. »
Qu'est-ce que c'est que cette batterie où vous avez contu de bastonnade un petit vicomte Albert de Ramochan ? Oh, dit Jehan, grand-chose, un méchant page qui s'amusait à escabouiller les écoliers en faisant courir son cheval dans les boues. Qu'est-ce que c'est, reprit l'archidiacre, que ce maillé fargel dont vous avez déchiré la robe ? Tunicam déchiraverunt, dit la plainte. Ah, bah, une mauvaise capette de Montaigu. Voilà-t-il pas ? La plainte dit tunicam et non capetam. Savez-vous le latin ?
Jehan ne répondit pas.
Oui, poursuivit le prêtre en secouant la tête. Voilà où en sont les études et les lettres maintenant. La langue latine est à peine entendue, la syriaque inconnue, la grecque tellement odieuse que ce n'est pas ignorance au plus savant que de sauter un mot grec sans le lire, et qu'on dit gracum est, non légiture.
L'écolier releva résolument les yeux. « Monsieur mon frère, vous plaît-il que je vous explique en bon parler français ce mot grec qui est écrit là sur le mur ?»«
Quel mot ?»«
Ananke. » Une légère rougeur vint s'épanouir sur les joues pommelées de l'archidiacre comme la bouffée de fumée qui annonce au dehors les secrètes commotions d'un volcan. L'écolier le remarqua à peine.
« Eh bien, Jehan, balbutia le frère aîné avec effort, qu'est-ce que ce mot veut dire ?»
Fatalité. Don Claude redevint pâle et l'écolier poursuivit avec insouciance.
Et ce mot qui est au-dessous, gravé par la même main, signifie impureté. Vous voyez qu'on sait son grec.
L'archidiacre demeurait silencieux. Cette leçon de grec l'avait rendu rêveur. Le petit Jehan, qui avait toutes les finesses d'un enfant gâté, jugea le moment favorable pour hasarder sa requête. Il prit donc une voix extrêmement douce et commença.
« Mon bon frère, est-ce que vous m'avez en haine à ce point de me faire farouche mine pour quelques méchantes griffes et pugnalades distribuées en bonne guerre à je ne sais quel garçon et marmoussé ?»«
Quibus dam marmoussetis ?»«
Vous voyez, mon frère Claude, qu'on sait son latin. »
Mais toute cette caresse hypocrite n'eut point le sévère grand frère son effet accoutumé. Cerbère ne mordit pas au gâteau de miel. Le front de l'archidiacre ne dérida pas d'un pli.
« Où voulez-vous en venir ? » dit-il d'un ton sec.
« Eh bien, au fait, voici, » répondit Jehan. « J'ai besoin d'argent. » À cette déclaration effrontée, la physionomie de l'archidiacre prit tout à fait l'expression pédagogique et paternelle.
« Vous savez, monsieur Jehan, que notre fief de Tirechappe ne rapporte, en mettant en bloc le cens et les rentes des 21 maisons, que 39 livres, 11 sous 6 deniers parisis. C'est moitié plus que du temps des frères Paclet, mais ce n'est pas beaucoup.
J'ai besoin d'argent, dit stoïquement Jehan.
Vous savez que l'official a décidé que nos 21 maisons mouvaient en plein fief de l'évêché et que nous ne pourrions racheter cet hommage qu'en payant au révérend évêque 2 marques d'argent doré du prix de 6 livres parisis. Or, ces 2 marques, je n'ai encore pu les amasser, vous le savez.
« Je sais que j'ai besoin d'argent, » répéta Jehan pour la troisième fois.
« Et quand voulez-vous faire ?»
Cette question fit briller une lueur d'espoir aux yeux de Jehan. Il reprit sa mine chatte et doucereuse.
« Tenez, cher frère Claude, je ne m'adressais pas à vous en mauvaise intention. Il ne s'agit pas de faire le beau dans les tavernes avec vos zinzins et de me promener dans les rues de Paris en caparaçon de brocart d'or avec mon laquais. »
« Non, mon frère, c'est pour une bonne œuvre. »«
Quelle bonne œuvre ? » demanda Claude un peu surpris.
« Il y a 2 de mes amis qui voudraient acheter une layette à l'enfant d'une pauvre veuve Audriette. C'est une charité. Cela coûtera 3 florins et je voudrais mettre le mien. »«
Comment s'appellent vos 2 amis ?»«
Pierre Lassommeur et Baptiste Croque-Oison. »
Hum, dit l'archidiacre. « Voilà des noms qui vont à une bonne œuvre comme une bombarde sur un maître-autel. »
Il est certain que Jehan avait très mal choisi ses 2 noms d'amis. Il le sentit trop tard.
« Et puis, » poursuivit le sagace Claude, « qu'est-ce que c'est qu'une layette qui doit coûter 3 florins, et cela pour l'enfant d'une Audriette ? Depuis quand les veuves Audriettes ont-elles des marmots au maillon ?»
Jehan remplit la glace encore une fois.
Eh bien oui, j'ai besoin d'argent pour aller voir ce soir Isabeau, la Thierry, au Val d'Amour.
Misérable impur, s'écria le prêtre.
Impureté, dit Jehan.
Cette citation que l'écolier empruntait peut-être avec malice à la muraille de la cellule fit sur le prêtre un effet singulier. Il se mordit les lèvres et sa colère s'éteignit dans la rougeur.
« Allez-vous-en, » dit-il alors à Jehan. « J'attends quelqu'un. »
L'écolier tenta encore un effort.
« Frère Claude, donnez-moi au moins un petit parisis pour manger. »«
Où en êtes-vous des décratales de Gratien ?» demanda donc Claude.
« J'ai perdu mes cahiers. »
« Où en êtes-vous des humanités latines ?»«
On m'a volé mon exemplaire d'Horatius. » »«
Où en êtes-vous d'Aristoteles ?»«
Ma foi. » »«
Frère, quel est donc ce père de l'Église qui dit que les erreurs des hérétiques ont de tout temps eu pour repère les broussailles de la métaphysique d'Aristoteles ?»«
Foin d'Aristoteles, je ne veux pas déchirer ma religion à sa métaphysique. » »«
Jeune homme, » reprit l'archidiacre, il y avait à la dernière entrée du roi un gentilhomme appelé Philippe de Comines, qui portait brodé sur la housse de son cheval sa devise que je vous conseille de méditer.
Qui non labora, non manducé.
L'écolier resta un moment silencieux, le doigt à l'oreille, l'œil fixé à terre et la mine fâchée. Tout à coup, il se retourna vers Claude avec la vive prestesse d'un hochequeux.
« Ainsi, bon frère, vous me refusez un sou parisis pour acheter une croûte chez un talmenier. »«
Qui non labora, non manducé. » À cette réponse de l'inflexible archidiacre, Jehan cacha sa tête dans ses mains comme une femme qui sanglote et s'écria avec une expression de désespoir.
« Oh, toi.
Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur ?» demanda Claude, surpris de cette incartade.
« Eh bien quoi ?» dit l'écolier.
Et il releva sur Claude des yeux effrontés dans lesquels il venait d'enfoncer ses poings pour leur donner la rougeur des larmes.
« C'est du grec. C'est un anapès d'Échille, qui exprime parfaitement la douleur. »
Et ici, il partit d'un éclat de rire si bouffon et si violent qu'il en fit sourire l'archidiacre. C'était la faute de Claude, en effet. Pourquoi avait-il tant gâté cet enfant ?«
Oh, bon frère Claude, » reprit Jehan, enhardi par ce sourire, « voyez mes brodequins percés, y a-t-il cothurne plus tragique au monde que des bottines dont la semelle tire la langue ?»
L'archidiacre était promptement revenu à sa sévérité première. « Je vous enverrai des bottines neuves, mais point d'argent. »«
Rien qu'un pauvre petit parisis, frère, » poursuivit le suppliant géant. « J'apprendrai Gratien par cœur, je croirai bien en Dieu, je serai un véritable Pythagoras de science et de vertu. Mais un petit parisis par grâce... »
« Voulez-vous que la famine me morde avec sa gueule qui est là, béante devant moi, plus noire, plus puante, plus profonde qu'un tartare ou que le nez d'un moine ?»
Donc Claude hocha son chef ridé. « Qui non, l'oborate ?» Jehan ne le laissa pas achever.
« Eh bien, s'écria-t-il, au diable ! Vive la joie ! Je m'en tavernerai, je me battrai, je casserai les repos et j'irai voir les filles !»
Et sur ce, il jeta son bonnet au mur et fit claquer ses doigts comme des castagnettes.
L'archidiacre le regarda d'un air sombre.
« Jehan, vous n'avez point d'âme. »«
En ce cas, selon Épicurius, je manque d'un je ne sais quoi fait de quelque chose qui n'a pas de nom. »«
Jehan, il faut songer sérieusement à vous corriger. »«
Ah ça !» s'écria l'écolier, en regardant tour à tour son frère et les alambics du fourneau. « Tout est donc cornu ici, les idées et les bouteilles. »
« Jehan, vous êtes sur une pente bien glissante. Savez-vous où vous allez ?»«
Au cabaret, » dit Jehan.
« Le cabaret mène au pilori. »«
C'est une lanterne comme une autre et c'est peut-être celle-là que Diogène eut trouvé son homme. »«
Le pilori mène à la potence. »«
La potence est une balance qui a un homme à un bout et tout la terre à l'autre. »« Il est beau d'être l'homme. »«
La potence mène à l'enfer. »«
C'est un gros feu. »
Jehan, Jehan, la fin sera mauvaise.
Le commencement aura été bon.
En ce moment, le bruit d'un pas se fit entendre dans l'escalier.
Silence, dit l'archidiacre en mettant un doigt sur sa bouche. Voici maître Jacques.
Écoutez, Jehan, ajouta-t-il à voix basse,
gardez-vous de parler jamais de ce que vous aurez vu et entendu ici. Cachez-vous vite sur ce fourneau et ne soufflez pas.
L'écolier se blottit sous le fourneau. Là, il lui vint une idée féconde. À propos, frère Claude, un florin pour que je ne souffle pas. Silence, je vous le promets. Il faut me le donner. Prends donc, dit l'archidiacre en lui jetant avec colère son escarcelle. Jehan se renfonça sous le fourneau et la porte s'ouvrit.